8h21 sur France Culture, nous retrouvons notre invité Pierre Rosanvallon, historien, professeur au Collège de France. Sur ce terme ultra-droite, votre réaction, est-ce une notion, un concept, quelque chose qui marque véritablement un corpus doctrinaire ?
Non, ça n'a pas d'autre signification que journalistique, pour changer de terme. Peut-être pour indiquer une chose, c'est que des mouvements violents d'extrême droite aujourd'hui n'appartiennent plus simplement à l'ancienne extrême droite. Il y a bien sûr une résurgence ou une permanence toujours de la vieille extrême droite, je dirais, de Jean-Marie Le Pen. Mais il y a aussi maintenant de nouveaux types d'éléments et qui enrôlent en quelque sorte des, notamment des jeunes personnes qui n'ont pas partagé cette histoire de Jean-Marie Le Pen, mais qui partagent une vision maintenant de la violence comme moyen politique qui va devenir nécessaire. Parce que le problème, c'est dans une société dans laquelle ne se dessine plus clairement d'avenir, dans une société dans laquelle on a l'impression que les choix deviennent plus rétrécis, eh bien, il est un peu inévitable qu'il y ait de la violence qui arrive. Alors cette violence, évidemment, il ne faut pas la voir comme une violence sociale générale. Il y a une violence sociale générale que l'on peut expliquer. Et puis il y a des formes de violence polarisée, de violence raciste, par exemple, qui sont là clairement identifiées et contre lesquelles on peut clairement combattre. Mais je crois que ça ne doit pas faire oublier qu'on est dans un moment politique dans nos sociétés dans lesquelles il y a une forme d'attraction pour la violence qui va progresser. Regardez, on a le procès de Tarnac qui était l'échec et la déconfiture que l'on sait. Mais il est à peu près inévitable que dans un horizon qui apparaît bouché, un certain nombre de personnes n'envisagent pas des actions symboliques ou des actions graves donnent une espèce de nouveau champ à l'action pour ne pas périr par inaction.
Mais justement, dans le procès de Tarnac, c'était plutôt l'absence de violence, puisque ces prévenus ont été relaxés et apparemment il n'y avait absolument rien à leur reprocher, sauf si effectivement on réinstaure un délit de pensée en France qui ne semble pas d'actualité. Ce qui est étonnant, c'est qu'on parle beaucoup de violence, mais les époques précédentes ont été violentes lorsque, par exemple, il y avait véritablement un affrontement entre la gauche et la droite. Je parle de l'époque où le Parti communiste était vigoureux, je parle de la guerre froide. Est-ce que ces moments-là n'étaient pas des moments plus violents politiquement, Pierre Rosanvallon ?
Non, c'était des formes d'affrontement durs, des formes de face-à-face qui étaient rugueux. Mais la violence veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a une attaque contre des institutions, qu'il y a une attaque contre des personnes, qu'il y a une attaque contre des services publics. Et ne confondons pas la rugueur existante et peut-être nécessaire de la vie politique avec justement ce qui passe dans un autre champ qui est celui de l'attaque contre les personnes, contre les institutions et contre, on peut dire aussi, l'idée même de vie démocratique, c'est-à-dire qu'une certaine type de violence reconnaît que la vie démocratique n'est plus possible et qu'il faut faire autre chose.
Si le terme d'ultra-droite rentre aujourd'hui dans le langage courant, cela veut dire aussi que l'extrême droite est aujourd'hui dédiabolisée, qu'elle fait partie donc des mouvements considérés comme des mouvements démocratiques classiques.
Je ne pense pas qu'il faille dire cela, parce que l'extrême droite au sens, l'extrême droite pétainiste, l'extrême droite de Tixier-Vignancourt, l'extrême droite de l'Action française, puisqu'on republie Maurras, l'extrême droite de l'OAS, cette extrême droite, elle est derrière nous. Maintenant, l'extrême droite se définit autrement. Elle va se définir par une haine de l'immigré, une haine de la démocratie pluraliste. Qu'on emploie, je crois que cette question de vocabulaire doit être considérée comme secondaire. Ça appartient toujours à l'extrême droite d'une certaine façon. Et c'est peut-être parce qu'on a parlé aux États-Unis de alt-right que l'on a essayé de le traduire par ultra-droite en France.
Alt-right, donc effectivement un mouvement suprématiste blanc. Mais vous voyez justement, par exemple, sur Maurras, il y a eu la republication. Il y a eu une polémique autour de cette republication. On peut dire que les lecteurs de Maurras, les lecteurs pardon de Maurras étaient quand même peu nombreux, et aujourd'hui on voit refleurir à droite. Alors chacun qualifiera cette droite-là, mais je pense à par exemple un publiciste comme Éric Zemmour, une défense de Maurras. On le voit malgré tout relu et défendu. Ça, c'est quand même quelque chose qui
nous étonne. Non, mais ça, c'est un phénomène massif des 10 dernières années. S'il fallait définir ce qui a caractérisé les 10 dernières années intellectuellement, c'est tout de même la montée en puissance, je dirais, des idées conservatrices et des idées réactionnaires. Ça, c'est le phénomène massif. Quand j'avais publié le livre de Daniel Lindenberg, Le rappel à l'ordre, sur les nouveaux qui avaient employé pour la première fois l'expression de nouveaux réactionnaires en 2002, c'était apparu comme un livre posant problème. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il n'avait qu'un défaut, c'est d'avoir été prémonitoire. Et je crois que les relectures, à partir du moment où il y a une montée en puissance du conservatisme, une montée en puissance de ces idées rétrogrades, eh bien, réactionnaires au sens propre du terme, eh bien, on se recherche des maîtres penseurs dans le passé. Et donc, a ressurgi un peu Maurras, mais est-il cité ? Je ne le pense pas tellement.
Est-il lu ? Est-ce qu'il est cité ?
Oui, un peu, mais je dirais que c'est quelque chose d'anecdotique. Au contraire, le trait intéressant aujourd'hui, c'est que beaucoup de penseurs néo-conservateurs vont essayer, au contraire, de se réclamer disciple d'Orwell, qui doit se retourner dans sa tombe, de regarder quelqu'un comme Michéa, qui s'est fait l'éditeur, le commentateur d'Orwell, ou bien même certains se réclament, n'hésitent pas à se réclamer de Simone Veil ou de Hannah Arendt. Donc, ne regardons pas ce jeu des références, il a pour fonction aussi d'habiller, de donner une certaine dignité intellectuelle et culturelle à des mouvements. Mais le phénomène de fond, c'est bien la progression de ces pensées, pourrait-on dire, réactionnaires. Et sur le fond, qui sont, elles, proprement illibérales. Car l'ennemi de toutes ces pensées, c'est le libéralisme. Le libéralisme, pas entendu au sens étroit de libéralisme économique, mais c'est la vision du pluralisme, c'est la vision des droits comme étant en quelque sorte le cœur de la vie démocratique. Donc là, il y a un tournant absolument majeur, et la vie des idées a documenté en quelque sorte ce tournant, mais a aussi essayé de montrer qu'au fond, on était entré dans une ère de perplexité, et donc qu'il fallait entrer dans une ère de reconstruction intellectuelle. Mais alors... Et donc, il fallait refaire en quelque sorte le bagage d'idées de la démocratie française. Et ce qui a été à l'origine, je dirais, de la vie des idées, c'est cette idée de reconstruire le bagage d'idées de la démocratie française, premièrement. Deuxièmement, déprovincialiser la réflexion, et aussi désuniversitariser, c'est-à-dire sortir de l'université toute la réflexion en histoire, en sociologie, pour en faire un capital, je dirais, mobilisable et appropriable par la société. De ce point de vue-là, il n'y a pas tellement de différence, je dirais, entre ce qui est l'ambition de la vie des idées et ce que proclame France Culture en disant l'esprit d'ouverture.
Déprovincialiser, expliquez-nous ce que cela signifie concrètement, Pierre Rosanvallon. Est-ce qu'il y avait, par exemple, trop peu de références à des auteurs étrangers ? Quels sont ceux qui vous paraissent précieux pour penser la période contemporaine ?
Ben, c'est pas simplement des auteurs étrangers, c'est des réalités étrangères. Par exemple, comprendre ce que veut dire l'évolution de la Chine aujourd'hui. Après tout, en Chine, il est frappant de voir que peu de gens réclament le suffrage universel, parce qu'ils voient bien que ce n'est pas le suffrage universel qui sera la solution à leurs problèmes, et que là, la barrière du Parti communiste chinois est considérable. Mais en revanche, c'est sur le terrain des droits, sur le terrain des batailles d'avocats. Et là, nous avons publié bien des articles et même un ouvrage sur ces questions-là pour expliquer ce que pourrait être pour des Chinois qui voulaient desserrer l'étau du Parti communiste la voie d'une allée vers un nouveau régime.
Mais alors, justement, parce que si on prend la Chine, si on prend l'Inde également, il y a...
Oui, on a beaucoup de... Nous avons beaucoup publié d'articles sur l'Inde.
Oui, je pense qu'il faut nous dire, Pierre Rosanvallon, en quoi, justement, la situation de l'Inde vous paraît intéressante pour penser le monde contemporain.
Ben, la situation de l'Inde est un pays intéressant parce qu'on a dit que c'était la plus grande démocratie du monde. Mais la plus grande démocratie, ça ne voulait pas dire la meilleure, ça veut dire celle où il y a le plus d'électeurs. Bon. Et ce qui est frappant en Inde, c'est de voir que la démocratie, elle a progressé en se calquant d'une certaine façon sur le monde des castes. Puisqu'il y avait toute une sous-représentation des basses catégories de la population, eh bien, il y a eu des partis qui ont été des partis de caste. Et paradoxalement, il y a eu une modernisation et un renforcement du système des castes dans la démocratisation de l'Inde. Et c'est toute l'histoire du BJP, et qui, avec Modi, qui est actuellement au pouvoir.
Le parti au pouvoir de Narendra Modi, qui est un parti autoritaire.
Mais qui est un parti... disons, c'est ce qu'on appellerait, pour faire vite, un parti populiste. Populiste, autoritaire, mais les populismes sont souvent autoritaires.
Avec des décisions qui sont des décisions notamment extrêmement dures contre la minorité musulmane, avec...
Ben, ce sont des politiques de renfermement, ce sont des politiques d'identité, ce sont des politiques dans lesquelles la difficulté de faire davantage l'égalité économique et sociale vise à être compensée par un surcroît d'identité de nationalisme.
Et finalement, le point commun entre la Chine et l'Inde notamment, mais pas uniquement Pierre Rosanvallon, c'est d'essayer de chercher une voie vers la modernité qui soit une voie non occidentale.
Oui, mais non occidentale, après tout, il faut bien avoir une chose, c'est que l'Occident n'est pas propriétaire de la démocratie, et l'est d'autant moins que bien des pays occidentaux, on pourrait dire, sont des pays libéraux à démocratie limitée. Et donc, nous sommes tous à égalité sur le globe s'il s'agit de partir du fait que nos systèmes politiques ne fonctionnent pas de façon satisfaisante. Nous sommes tous des apprentis en démocratie d'une certaine façon. Et l'arrogance occidentale, c'est celle qui consiste à dire « nous savons ce qu'est la démocratie, nous la possédons et nous la pratiquons ». Eh bien, ça n'est pas vrai. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est la démocratie, nous ne la pratiquons pas, et donc nous n'avons pas à être les missionnaires de la démocratie dans le monde. Nous sommes, nous aussi, des apprentis en démocratie. On le voit bien, même dans notre pays. Ce qu'on peut appeler la décomposition contemporaine de la démocratie sociale est quand même un phénomène absolument massif. Qui doit être réfléchi. Le fait qu'il y ait des attaques répétées vis-à-vis d'autorités indépendantes est aussi quelque chose qui doit être répété. Et donc l'occidentalisme ou bien l'arrogance occidentale commence quand l'Occident est persuadé d'avoir la propriété d'un certain nombre de valeurs et d'avoir la supériorité de les avoir appliquées. Enfin, eh bien, ça n'est que très partiellement le cas.
Mais c'est quand même une rupture, puisque pendant très longtemps, la Chine s'est réclamée d'un certain nombre de penseurs occidentaux. En Inde, la situation était différente. Mais le fait que ces voix soient aujourd'hui des voix complètement disjointes...
Oui, mais non, on peut dire que c'était... Bien sûr, on a fait appel à des penseurs occidentaux parce que c'était... Je dirais des penseurs de la rupture avec la tyrannie précédente. C'était des penseurs de la rupture avec l'ancien régime. Mais en ce qui concerne la pensée du bon régime, en quelque sorte, c'est quelque chose de très différent. Si vous regardez par exemple en Chine même, Sun Yat-sen, premier président de la République chinoise, d'ailleurs, à Nankin, il y a toute une colline Sun Yat-sen, une sorte de mausolée, de grand jardin. Il reste révéré dans la Chine communiste. Eh bien, Sun Yat-sen avait l'idée, il avait beaucoup lu Montesquieu, Sun Yat-sen avait l'idée qu'il ne fallait pas simplement parler des trois pouvoirs, mais il fallait aussi parler de deux autres pouvoirs, ce qu'il appelait le pouvoir d'examen et le pouvoir de surveillance. Le pouvoir de surveillance des pouvoirs et le pouvoir d'examen, c'est-à-dire de donner des fonctions à des gens véritablement qualifiés. Et donc ça, c'est une réflexion sur le fonctionnement de la démocratie qui était tout à fait originale, qui n'avait pas encore son pendant en Occident. Et aujourd'hui, Le Parti communiste chinois, par exemple, il argumente pour dire pourquoi il est contre le suffrage universel. Il dit le suffrage universel est une façon rustique et archaïque de choisir les dirigeants. Nous avons des meilleures façons qui est de choisir les meilleurs. Évidemment, le problème, c'est que les meilleurs, ils sont désignés par le Parti communiste qui fait passer en quelque sorte les examens de gouvernants.
Alors ça, c'est pour la rénovation de la pensée de gauche. Je mets le mot « gauche » avec tous les guillemets nécessaires. Du point de vue de la rénovation de la pensée de droite et notamment de la pensée libérale. Vous avez par exemple prononcé le nom de Karl Popper tout à l'heure. Karl Popper, c'est à la fois un philosophe, un épistémologue. Il a beaucoup influencé également la pensée libérale, le libéralisme économique. C'est notamment l'un des icônes de George Soros, ce financier qui est aujourd'hui beaucoup accusé par l'extrême droite. Et on voit finalement qu'on a une évolution qui est très étonnante, a priori en tout cas, c'est que Popper est attaqué par la droite. Il est attaqué par la droite d'Orban, il est attaqué aussi par la droite qu'incarne Donald Trump. Est-ce que ça signifie que la droite va se scinder en deux? Est-ce que ça met à jour des fractures au sein de la droite qui existaient depuis?
Ça indique tout simplement que toute une partie de la droite dans le monde n'est pas une droite libérale, est une droite tout à fait illibérale. Trump n'est pas un libéral au sens américain du terme, au sens profond du terme. Il est peut-être pour, et comme Orban, les frères Kaczynski, ils sont pour l'économie libre de marché, mais ils ne sont pas du tout pour la vision libérale des droits. Ils ne sont pas du tout pour la vision libérale des institutions. Donc, de ce point de vue-là, il y a aujourd'hui, on pourrait dire, une dissociation partout dans le monde. C'est ça qui est frappant. On parle de démocratie libérale ou on parle de démocrature, mais le phénomène massif, c'est qu'il y a une dissociation entre la compréhension de l'économie, la compréhension des phénomènes de société et la compréhension de la démocratie. Donc on peut avoir des ultralibéraux en économie qui sont des antidémocrates fondamentaux et qui sont des antilibéraux en termes de droits et d'institutions. Donc il y a eu, on pourrait dire que l'idée libérale telle qu'elle s'exprimait au XIXe siècle dans son authenticité avec des penseurs comme John Stuart Mill en Angleterre ou maintenant plus récemment aux États-Unis avec un John Rawls pour faire vite, eh bien c'était, on pourrait dire, des libéraux intégraux. Alors que maintenant, le libéralisme, il est en quelque sorte coupé en petits morceaux.
Oui, sauf qu'on nous expliquait il y a 20 ans que ça ne pouvait pas fonctionner ainsi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir de société qui était une société véritablement libérale sur le plan économique si elle n'était pas libérale sur le plan politique.
Eh bien, on a vu que c'était faux. Qu'il y a des économies. Il y a des économies qui se développent très rapidement, comme l'économie chinoise, avec des régimes. Et on pourrait dire Singapour à une autre échelle, qui se développent sans être des démocraties. Et c'est cela le problème aujourd'hui, c'est de penser que parce qu'on fait l'économie. C'est en quelque sorte l'illusion de pays occidentaux, et des États-Unis notamment, de penser que parce qu'on fait l'économie de marché, on va en quelque sorte avoir des sociétés libérales et des régimes démocratiques. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il faut, et parfois même c'est tout à fait contradictoire, donc il faudra aujourd'hui se battre sur les différents fronts.
Où situeriez-vous aujourd'hui la France dans cette évolution-là? Pour vous, en fait, le modèle libéral en France, c'est le modèle bonapartiste?
Non, le modèle bonapartiste, c'est justement le modèle de la démocratie illibérale. Le modèle bonapartiste Napoléon III, c'est une économie qui est plutôt une économie dirigée. En tout cas, il y a deux choses. Il y a à la fois les politiques de grands travaux, les politiques d'infrastructure. Ça, c'est les politiques publiques. Il y a Haussmann d'un côté, et puis de l'autre côté, les frères Perrer et tout le nouveau capitalisme qui se développe. Mais d'un point de vue des institutions, c'est le fait de dire que, au fond, l'élection définit la démocratie, et donc que toutes les institutions comme la presse, les institutions indépendantes n'ont pas droit de citer. Et lui, il défendait justement sa restriction des libertés au nom de la démocratie. Et c'est exactement, je dirais, lire Napoléon III aujourd'hui, ou les théoriciens du bonapartisme du Second Empire, c'est comprendre le raisonnement d'Orban et de Kaczynski. Ils parlent comme Napoléon III. Ils disent il est légitime de brider la presse parce que la presse est un instrument qui vise à fausser la démocratie, en quelque sorte, parce qu'elle fausse la réalité du suffrage universel à partir de personnes qui sont les représentants de l'argent. Et en plus, on a une... c'est pour ça qu'il y a la démonisation de Soros. Soros est démonisé parce qu'il est vu comme l'exemple, le grand capital qui s'impose comme la tête de pont, je dirais, d'institutions visant à menacer la démocratie élue.
Et alors, comment situez-vous Emmanuel Macron dans cette évolution-là? Est-ce qu'il vous paraît être justement un rempart contre cette tentation illibérale? Mais dans le même temps, j'ai sous les yeux, par exemple, la une du Parisien de ce matin où il est question donc des aides sociales en question, autrement dit, d'atténuer une partie de l'État-providence qui est largement controversée aujourd'hui dans le monde et notamment en France.
On peut dire qu'Emmanuel Macron apparaît comme un rempart dans le monde européen contre les idées telles que un certain nombre de pays de l'Est les défendent. Mais ce qui me frappe, c'est qu'avec lui, la démocratie sociale dépérit et que la vision de la démocratie politique est discutable qu'il développe, parce que lui aussi développe l'idée selon laquelle tous les corps intermédiaires sont secondaires et ce qui compte, c'est lui qui a été élu et donc qui est fondé à imposer ses vues. Donc c'est le paradoxe, là aussi on doit utiliser un oxymore, c'est le paradoxe d'une forme de libéralisme autoritaire ou de libéralisme jacobin. Et sur le fond, on sent bien qu'il va dans cette direction, mais on sent aussi que il n'a pas encore les véritables fondements de sa pratique. Et c'est pour cela qu'actuellement, on voit dans la République En Marche un certain nombre de responsables dire maintenant le temps est venu de nous donner une doctrine. Parce qu'on voit bien effectivement que cette doctrine, elle n'est pas encore constituée. Mais les actes commencent à être constitués. Et derrière ces actes, on voit quelque chose qui peut s'appeler un libéralisme autoritaire. On voit quelque chose qui est une dénégation de ce qui a un siècle d'existence, à savoir la démocratie sociale, telle qu'elle était fondée sur... la démocratie sociale, c'est l'idée de la CGT après la Première Guerre mondiale. C'est dire il faut faire un conseil économique du travail pour représenter le travail. Il faut faire des conventions collectives, ce qui a été fait. Il faut faire des nationalisations tripartites, où au fond, les biens publics, ils sont gérés à la fois par les travailleurs, les usagers et la collectivité. Tout ce qui faisait ce fond de la démocratie sociale et qui avait été sous des formes diverses présent depuis un siècle, eh bien, il tend aujourd'hui à être nié.
Libéralisme, on voit autoritaire. En quoi Emmanuel Macron a aujourd'hui une politique autoritaire
Mais selon vous, l'autoritarisme ne se définit pas par le fait qu'il priverait de liberté un certain nombre de personnes. L'autoritarisme se définit par le fait qu'il considère qu'il a une légitimité supérieure à la société civile. C'est-à-dire, s'il y a bien... j'ai dit qu'il y avait... une sorte de retour en arrière sur les fondements de la démocratie sociale, mais c'est tout simplement l'idée de société civile qui n'appartient pas à son vocabulaire. Bon, alors que l'idée de société civile, elle est au cœur de la vision libérale du monde.
On a pu accuser François Mitterrand d'avoir également ce même type de dérive lorsque, notamment immédiatement après son élection en 1981, il était question de dire que ceux qui étaient politiquement minoritaires avaient juridiquement tort.
Ça n'est pas François Mitterrand exactement, c'est celui qui est actuellement le maire d'Issoudun qui a dit ça, mais ça, effectivement, ça c'est véritablement une vision illibérale à l'état pur.
Juste pour en terminer avec la France, Pierre Rosanvallon, sur les oppositions à Emmanuel Macron, comment vous paraissent-elles structurées et que disent-elles finalement sur l'état politique de notre pays ?
Eh bien, on voit bien ce que sont les impatiences, on voit bien ce que sont les désenchantements, on voit bien ce que sont les colères, mais des impatiences, des désenchantements et des colères ne font pas véritablement une alternative. Pour une raison simple, c'est que si la gauche s'est essoufflée, si la gauche s'est en quelque sorte dispersée, ça n'est pas simplement l'usure du temps qui a produit cela, c'est le vide des idées. Et c'est pour cette raison que la question de la reconstruction d'un bagage d'idées de la démocratie française me semble aujourd'hui la question absolument essentielle.
Et juste pour conclure, la droite, les idées de la droite, elles sont aujourd'hui défendues par La République En Marche, ou alors il y a aujourd'hui une autre droite, je ne parle pas évidemment de la droite extrême, Pierre-Rosan Vallon.
Mais là, vous parlez en termes d'institutions, de partis
politiques
et d'institutions. Mais la réalité, c'est que la droite aujourd'hui, elle existe à travers tout un faisceau d'idées autour d'un républicanisme intransigeant, d'une vision radicale de la laïcité, d'une critique des droits de l'homme. Il y a tout un ensemble de terrains qui dessine, si je puis dire, de façon mouvante, mais les terrains à partir desquels se construisent, se reconstruisent les différentes droites aujourd'hui.
Merci Pierre-Rosan Vallon. Je rappelle que vous êtes historien, professeur au Collège de France. La vie des idées, c'est aussi d'abord un site internet. On peut aller le consulter. On voit par exemple les travaux de Jules Naudet, très intéressant, sur l'Inde.
Voilà, sur l'Inde. Ben, la vie des idées, c'est, disons, une bibliothèque permanente. Hein. Nous publions un papier de fond chaque jour. Et ce papier de fond, maintenant, il y a plus de 3000 papiers qui ont été publiés. Et donc, c'est une ressource pour comprendre le monde contemporain.